France Inter, Hélène Roussel. Le 7-9.
Le journal, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, 2020 fêté partout dans le monde et à Paris, sur les Champs-Élysées, des centaines de milliers de touristes à pied, à vélo, en trottinette. Grève des transports oblige. Reportage dès le début du journal. Dans le reste de l'actualité, Agnès.
Les vœux d'Emmanuel Macron qui appellent à trouver un compromis rapide sur la réforme des retraites sans convaincre pour l'heure les syndicats. Vous avez bien vu durant le réveillon, place à un mois de janvier sobre, c'est en tout cas le souhait des médecins. Après l'attaque de l'ambassade des États-Unis à Bagdad, Washington annonce l'envoi de 750 soldats supplémentaires dans la région. Et puis, les sorties ciné du mercredi avec une invitation à la sérénité et à la plénitude.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50. Alexandra Ben Saïd, vous recevez.
Un professionnel de la communication élyséenne, c'est l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, qui est aujourd'hui conseiller régional des Pays de la Loire et candidat Les Républicains au municipal à La Baule.
Et puis à 8h20, dans le grand entretien de la matinale, Bertrand Perrier, avocat et spécialiste de l'art oratoire, il enseigne dans les plus grandes écoles comme en banlieue. Qu'a-t-il pensé des vœux du président sur la forme? Pourquoi est-ce important de savoir dire? La parole reste-t-elle un marqueur social? Fidèles auditeurs, vous pouvez appeler dès maintenant pour poser vos questions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et sur l'application mobile de France Inter.
France Inter.
Spectacle, son et lumière sur l'Arc de Triomphe, champagne, embrassade, accolade, feux d'artifice. Il y avait foule sur les Champs-Élysées aux 12 coups de minuit où des centaines de milliers de personnes sont venues célébrer le passage en 2020. Instant de fête sur la plus belle avenue du monde avec Jean-Michel Nagar.
2700 tirs en quelques minutes et un final en apothéose. Le feu d'artifice, mais aussi l'Arc de Triomphe illuminé. Pour Samy et Nasser, cela valait bien un aller-retour express entre Paris et Strasbourg.
C'est bien pour commencer l'année, non? C'est joyeux, il y a plein de monde. On voit pas ça partout. C'est pas à Strasbourg qu'on verra ça, on va dire.
Et beaucoup ont fait le voyage de plus loin. Véronica et toute sa famille sont venues d'Espagne pour cet événement.
Mon copain, il n'avait jamais visité la France, donc je lui ai dit d'y aller.
Incroyable, c'est magnifique. Je ne parle pas français, mais la cité, waouh.
Pour cette nouvelle année, la plus belle avenue du monde a connu beaucoup de cris et d'embrassades dans toutes les langues, en allemand, en arabe, en afghan, le même message de bonne année.
Guten Rutschen, Freunde, ja!
Sonne Saïda!
Nebu Kal Mubarak!
Happy New Year! Bonne année!
Merci, bonne soirée!
La fête donc sur les Champs-Élysées à Paris et une nuit très agitée à Strasbourg avec un nombre de véhicules incendiés en hausse par année par rapport à l'année dernière, même si la police n'a pas souhaité préciser le nombre de véhicules incendiés. Des affrontements également avec les forces de l'ordre et puis une vingtaine de personnes ont été blessées en tirant des pétards. Un peu plus tôt dans la soirée, Emmanuel Macron avait adressé ses vœux aux Français dans une allocution d'une quinzaine de minutes, discours très attendu. Dans un contexte social tendu, et le chef de l'État a donc appelé Cyril Graziani à l'apaisement et au changement.
Emmanuel Macron a d'abord rendu hommage aux Français en rappelant certains bons résultats économiques, l'emploi notamment.
Tout cela, nous l'avons fait ensemble.
Puis, au passage, une petite pique à ses prédécesseurs quand il évoque ses troisièmes vœux.
D'habitude, c'est le moment du mandat où on renonce à agir avec vigueur pour ne surtout plus mécontenter personne à l'approche des futures échéances électorales.
Échéance qui les graine jusqu'à 2022. Emmanuel Macron vante un discours d'apaisement, mais...
Apaiser ne veut pas dire renoncer. J'ai conscience que les changements bousculent souvent. Mais les inquiétudes ne sauraient pousser à l'inaction car il y a trop à faire.
Sur les retraites, justement, à ceux qui espéraient peut-être un compromis, leurs espoirs ont été douchés.
La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme.
Mission confiée à Édouard Philippe.
J'attends qu'il trouve la voie d'un compromis rapide.
Pas sûr que les syndicats, eux, y trouvent leur compte. Emmanuel Macron n'est pas un président qui renonce, mais qui ose des références.
Ce serait trahir nos enfants, leurs enfants après eux, qui alors auraient à payer le prix de nos renoncements.
Leurs enfants après eux, clin d'œil au roman social de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, livre de chevet, paraît-il, d'une partie de la Macronie. et visiblement du président.
Nombreuses réactions sur le plan politique. Sans surprise, Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts regrette un projet de société digne d'un Sarkozy bas de gamme. Le socialiste Boris Vallaud parle d'un président déraisonnablement obstiné et sourd aux préoccupations du pays. Éric Ciotti pour Les Républicains évoque pour sa part des vœux aussi longs que creux, sans âme et sans perspective. Une intervention qui n'a pas non plus convaincu les syndicats. Si l'UNSA attend des précisions sur la pénibilité, Yves Verrier de Force Ouvrière regrette un discours sans fond.
Malheureusement, le président de la République n'a pas apporté d'éclairage nouveau. Il a plutôt réutilisé les arguments que moi j'appelle des arguments marketing, des formules assez générales qui peuvent sonner plutôt sympathiquement, hein, universalité, équité, résoudre les problèmes des femmes à la retraite, etc. Sauf que ça ne correspond pas à la réalité du projet du gouvernement de régime unique par points. En quoi sera-t-il plus équitable? Est-ce qu'il est capable de nous le démontrer concrètement? Non, il n'a pas réussi depuis 2 ans et demi. Moi, je ne peux pas faire autrement que d'appeler à manifester encore plus nombreux dès le 9 janvier, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, de tous les corps de métier, parce que c'est l'enjeu de toutes et tous.
Et avant, donc, ce sera la reprise des négociations mardi prochain. 28e jour de grève aujourd'hui dans les transports. Ce sera difficile de circuler dans Paris. 8 lignes de métro fermées. Les autres circuleront quelques heures seulement. Seules les lignes automatiques 1 et 14 circuleront normalement. 3 bus sur 4 en moyenne. 4 TER sur 10. 1 Transilien sur 5. 1 Intercité sur 10. Et 1 TGV sur 3.
Et qui dit nouvelle année, Agnès, dit bonne résolution.
Et c'est un défi que lancent ce matin médecins et associations de ne pas boire durant le mois de janvier sur le modèle du Dry January lancé il y a 6 ans en Grande-Bretagne. Une façon pour chacun de s'interroger sur sa consommation d'alcool, Véronique Julia.
Nous ne sommes ni moralisateurs ni hygiénistes, se défendent les associations. Le but de l'opération n'est pas, disent-elles, l'arrêt total de l'alcool. L'idée, c'est plutôt, grâce à cette pause d'un mois, de changer de regard sur notre consommation, réfléchir à nos automatismes, vérifier si on est capable ou non de se détendre ou de s'amuser sans une bouteille. L'expérience britannique a montré qu'à court terme, l'opération permet à ceux qui la suivent de perdre du poids et de mieux dormir. Les effets sont visibles aussi à long terme. Nathalie Latour est déléguée générale de la Fédération Addiction.
Dans les semaines et dans les mois après, on arrive à mieux réguler sa consommation. On réduit d'un verre par occasion et on a en moyenne 1 jour de consommation en mois par semaine.
Initialement, l'opération devait être soutenue par les pouvoirs publics. Finalement, l'État s'est désisté. Le sujet était trop sensible face au lobby de l'alcool. Forcément, Nathalie Latour le regrette.
On n'arrive pas à avancer là-dessus, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les arbitrages sont uniquement du côté des acteurs économiques. Et ce qui est dommageable, c'est de ne pas, encore une fois, réussir en France à avoir un débat ou des propositions équilibrées qui respectent des enjeux économiques, mais qui respectent aussi des enjeux de santé et des enjeux sociaux.
Pour participer, on n'est pas forcé de s'inscrire, mais on peut le faire sur le site dryjanuary.fr. Les organisateurs espèrent au moins 5 000 inscrits pour cette première édition. D'après Santé publique France, l'alcool serait à l'origine en France de 41 000 morts par an.
Et parmi les autres changements ce 1er janvier 2020, notamment la fin progressive du plastique à usage unique, nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Ce qui ne change pas, ce sont les déclarations va-t-en-guerre de certains grands de ce monde. Kim Jong-un entend reprendre le développement du programme nucléaire nord-coréen et promet dans un avenir proche une nouvelle arme stratégique et une action sidérante contre les États-Unis. Le secrétaire d'État américain a joué la carte de l'apaisement en disant espérer que Pyongyang choisirait la paix et la prospérité. Grosse colère également de Donald Trump après l'attaque de l'ambassade des États-Unis à Bagdad par des militants pro-iraniens qualifiés de terroristes par la Maison-Blanche qui, dans la foulée, a annoncé l'envoi de 750 soldats américains supplémentaires dans la région, notamment au Koweït. Correspondance de Washington de Grégory Phillips.
Il n'est, pour l'instant en tout cas, pas question d'évacuer le personnel diplomatique de cette ambassade américaine située au cœur de la zone verte à Bagdad. Le département d'État confirme que les diplomates restent en poste, mais dans le même temps, le Pentagone annonce l'envoi sur place d'une centaine de marines supplémentaires qui vont sécuriser les lieux. D'autres troupes, plusieurs centaines de soldats, affirme un responsable américain, sont déjà en route pour le Koweït, voisin de l'Irak, et seront appelés en renfort si la situation se détériore. Hier à Bagdad, on a vu aussi des hélicoptères Apache américains survoler l'ambassade et les manifestants pour les impressionner. Pour la Maison Blanche, il ne fait aucun doute que c'est l'Iran et les brigades du Hezbollah qui se trouvent derrière ces manifestations anti-américaines violentes. Hier soir sur Twitter, le président Trump écrivait ceci « Les Iraniens paieront le prix fort, ce n'est pas une mise en garde, c'est une menace, et bonne année ». Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et quelques heures plus tard, Donald Trump est revenu sur son tweet, disant ne pas s'attendre à une guerre avec l'Iran et affirmant depuis sa résidence en Floride aimer la paix. Smartphone, économie collaborative, nous vous avons rencontré en début de semaine sur France Inter les innovations qui ont bouleversé notre quotidien entre 2010 et 2020. Mais qu'attendre des 10 prochaines années? Nous nous intéressons ce matin à l'intelligence artificielle. Cantonnée à la recherche scientifique il y a 10 ans, elle est déjà entrée dans notre quotidien et ce n'est qu'un début, Delphine Evenou.
Ces algorithmes nous permettent déjà de contourner un bouchon sur la route, d'avoir un assistant virtuel. L'intelligence artificielle nous agace aussi quand on se retrouve sur Internet face à un robot conversationnel qui ne comprend pas bien ce qu'on lui dit. Mais ce qui balbutie aujourd'hui sera fluide demain, assure Tristan Cazenave, professeur en intelligence artificielle à Paris Dauphine. Il travaille entre autres sur la question des transports.
Une application sur laquelle je travaille, c'est l'optimisation des déplacements des agents d'EDF. Ils doivent visiter un certain nombre de personnes dans la journée et donc il y a des milliers de visites qui doivent être faites. Et donc optimiser l'ordre dans lequel on fait ces visites, ça leur fait gagner des millions de kilomètres tous les ans et économiser des centaines de tonnes de CO2.
Réduire notre empreinte carbone, améliorer aussi notre santé avec des algorithmes qui optimisent la détection de symptômes de maladies rares ou qui trouvent des combinaisons pour nous soigner comme dans le laboratoire de notre chercheur.
Concevoir un médicament, ça prend des années et des années et puis il y a beaucoup de tests à faire. Si on peut accélérer le processus en automatisant certaines tâches, ça permet de concevoir des médicaments plus rapidement.
Le champ des recherches est immense et les promesses aussi grandes que les inquiétudes. Le risque de surveillance de masse avec la reconnaissance faciale ou le développement des fake news avec des vidéos de plus en plus trompeuses. Pour encadrer l'intelligence artificielle, il faut un débat sur l'éthique qui pour l'instant ne peut être mené que par des êtres de chair et de sang.
Delphine Evenou, enfin laissez-vous surprendre, ce pourrait être une résolution pour cette année.
En allant voir, peut-être, par exemple, un film qui a priori peut rebuter, un premier film chinois, long et sans vedette, mais il serait pourtant dommage, Eva Bétan, de passer à côté de ce séjour sur les monts Fuchun.
Une année cinéma qui commence avec un vrai beau film ne pourra pas être mauvaise. Oui, un film chinois de 2h30, d'un inconnu, c'est un premier film. Attendez, c'est pour tout le monde. La vie d'une famille, sur plusieurs générations et sur une année, qui commence par l'anniversaire de l'aïeul, la révérence de ses fils, puis leur embarras quand elle devient dépendante. Mais le réalisateur a une manière très particulière de raconter. Alors qu'il n'a que 26 ans, il y a chez lui une sérénité, une plénitude. Il peint dans le même mouvement, les hommes, leur environnement, la nature, comme si la vie se déroulait devant nous. Une Chine où tout bouge, où on détruit et on construit, où on ne parle que d'argent, combien ça coûte, l'hôpital, un logement. La Chine aussi de l'enfant unique qui a fait des enfants les prisonniers des désirs de leurs parents. Et il y a aussi la nature, un long plan séquence au bord de l'eau beau, sans ostentation. Et c'est ainsi que nous assistons à l'éclosion d'un cinéaste.
Et ce cinéaste, c'est donc Xiaogang Jiu. Son séjour sur les monts Fuchun sort aujourd'hui. Il nous promet sérénité et plénitude, c'est tout ce que l'on vous souhaite pour cette nouvelle année, Hélène.
Au moins, oui. Merci Agnès Soubiran.